à Voigny. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Denis Lavant. Ce soir, chasseur de mots.
Bonsoir Denis Lavant.
Bonsoir.
Vous êtes un passionné de littérature et de poésie en particulier. Les poètes sont pour vous des repères dans l'appréhension des choses et du monde. Et vous en aviez plusieurs qui vous accompagnent. Rimbaud, Lorca, René Char, Nietzsche, Verlaine, Beckett, Hugo, Jean-Pierre Martinet qui a écrit un livre que vous adorez, Henri Miller, mais aussi Bobby Lapointe et même Serge Reggiani. Oui. Comment fait-on connaissance avec les poètes, Denis Lavant ?
Et tout simplement, quand ça commence par une grande flemme de lire, et donc de rechigner énormément à lire des romans et des pages où il y a trop de signes, il y a trop de mots. Donc d'être pris un peu par l'angoisse de ces pages où il y a beaucoup trop de choses et de volumes trop épais. Et donc de voir une forme de littérature où l'écriture, elle est déposée de façon très aérée, soit en vers, soit de façon un peu comme ça, spatialisée sur le papier avec du blanc. Et ça, c'est très rassurant. Fait qu'il y a peu de mots. Et donc forcément, je vais voir qu'est-ce qui a marqué... dessus. Et en plus, c'est charmant parce que souvent, la poésie, il n'y a pas de narration, c'est de l'image. Ou c'est une pensée qui est véhiculée par des suites d'images qui font un tableau, qui déposent une sorte de vision, des fois onirique, des fois très concrète, mais qui passe par la métaphore, qui n'est pas l'exacte réalité, qui est un peu décalé en dessous ou au-dessus ou à côté de la réalité, mais qui raconte, qui retentit, en fait, qui me raconte très vite quelque chose. Et souvent, c'est une littérature dans laquelle on aborde des sujets qui préoccupent, qui tourmentent, comme des sujets macabres, la disparition, la vie, le trouble amoureux, la passion, le désespoir, l'explosion de joie, quoi, le ravissement, la jubilation aussi. Et donc ça a fait très 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 fort à l'émotionnel. Et moi j'ai découvert ça assez tôt parce que mes parents écoutaient des chanteurs, comme Reggiani qui en prologue à quelques chansons, il disait un poème, notamment Le Dormeur du Val, en prélude au Déserteur de Boris Vian, Le Pont Mirabeau aussi. Et puis, il y avait un très très beau disque, très fort, pour moi qui était frappant, que mes parents écoutaient, c'était les poèmes de Lorca, faits par un comédien, Lebovici, il me semble. Marcel Lebovici, je peux me tromper de nom, mais je suis pas sûr que je me trompe quand même. Qui était ça en français, traduction de Lorca, avec une guitare flamenco et les chants pour un torero, Sanchez Ignacio Mejías, qui est mort encorné par un taureau, et une sorte de chant funèbre qui était terrible. Pour moi, ça retentissait par rapport à la côté macabre, fatal, néfaste, par rapport à la manière dont il dilatait le présent dans un poème qui s'appelle « À 5 heures du soir », où il répète « À 5 heures de la tardes ». Et dans ce 5 heures du soir, il se passe plein de choses. Et pour moi, c'est à travers ça, j'ai découvert vraiment l'entité poésie et comment la poésie, elle pouvait démultiplier l'instant, le présent, mais en se faisant se répercuter des images, mais toujours à 5 heures du soir. Je trouve que c'est un procédé poétique qui est énorme, qui est un témoignage énorme de la possibilité de la poésie, de la manière dont il y a une sorte de temps, d'instant qui est transcendé, en fait. Où voilà. Et donc, je suis parti là-dessus, quoi. Puis très vite, j'en ai appris la poésie. Et surtout de la poésie, parce qu'il y avait cette chose-là qui avait à voir avec une danse macabre. Quelque chose, moi, enfant, sans doute, j'étais hanté aussi par la mort, où c'était un questionnement très important. Et un poème comme la balade des pendus de François Villon, tout de suite, ça m'a paru super. C'était pas d'être hanté de façon morbide, mais d'être intrigué par cette manifestation moyenâgeuse de la mort, la danse macabre qui est entre eux, avec moi, la vie qui est entraînée par la mort, avec le sourire des têtes de mort, il y avait quelque chose qui était formidable, qui me parlait beaucoup, quelque chose de baroque comme ça. Et donc, ce poème de Villon, ça a été un des premiers que j'ai appris et que je sais encore. Je me rends compte que c'est
Allez-y.
Un poème. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, car de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée, pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
C'est très bien.
Merci.
Denis Lavant.
Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est tellement infusé.
C'est comme appuyer un petit bouton.
Non, ce n'est pas un bouton, c'est le ton de choc.
Dans sa correspondance avec l'écrivain Albert Parras, Louis-Ferdinand Céline, que vous avez joué, que vous avez incarné au théâtre et au
cinéma. Vous avez dit Albert Camus, c'est pour ça que j'ai...
Albert Parras. Donc, que vous avez incarné au cinéma et au théâtre. Ses livres sur son art y affirment... On prend la langue qu'on peut,
ouais.
On la tortille comme on peut.
Elle jouit ou elle jouit pas.
Tout à fait. Les mots, dit-il, ne sont rien s'ils ne sont pas notes d'une musique du tronc.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, c'est clair. Hein.
Pas tant que ça,
ah oui.
Finalement.
Non, parce que, non, excuse-moi, c'est clair, c'est mes poches, parce que j'ai joué dans ce montage qui avait été fait par Émile Bramy, la mise en scène d'Yvan Morane. Faire danser les alligators sur la flûte de Pan, effectivement, ça faisait partie de mon texte.
Mais c'est pas cette musique dont il parle.
La musique, c'est très clair. Il a réussi à saisir quelque chose d'essentiel, Céline, qui a été sa boussole des ténèbres. Il me dit, c'est le rythme. C'est le rythme, c'est l'émotion, et qu'il y a une cadence, et que chaque grand auteur, chaque grand poète a une cadence. C'est son rythme cardiaque, sa pulsion de vie, et qu'il arrive à métaboliser dans son écriture, avec la vérité de ses sensations, et en transposant son vécu. C'est-à-dire sans aller inventer, mais simplement en utilisant son expérience. C'est-à-dire, Céline, ce qu'il a tendance à dire, c'est payé. C'est pas de l'invention, c'est pas de compter fleurette, c'est de l'expérience vécue, parfois traumatisante, qu'il arrive, et c'est un travail énorme. C'est un travail de titan. Rimbaud le dit lui-même, ces effroyables travailleurs. C'est vraiment des gens qui se sacrifient pour transmuter du vécu en littérature. Et donc, effectivement, ça demande pas de parler, de faire semblant de parler naturellement, ou de restituer un jargon comme ça, vaguement du parler quotidien, comme s'il s'enregistrait en train de parler. Non, c'est de sculpter la phrase, c'est de tordre les mots pour qu'ils signifient au maximum. Et vous prenez la moindre page du Voyage au bout de la nuit, de Mort à crédit, c'est là, c'est patent, c'est de l'écriture poétique, c'est du parler quotidien qui est transposé absolument, qui est sculpté, voilà, et donc qui donne un style, mais qui est conduit aussi par l'émotion. C'est quand même deux agents qui sont indispensables pour qu'une écriture retentisse. Et c'est l'écriture poétique par excellence. Céline, il écrit pas en vers, mais c'est rythmé. Vous lisez du Céline, c'est cadencé. Et on sent qu'il est conduit absolument par cette cadence. Et c'est ça son repère qui fait que... Et moi, je m'en suis rendu compte en jouant rien que de la correspondance de Céline, donc du langage qui n'est pas autant sculpté, autant défini que comme le labeur énorme qu'il a produit pour ses romans. C'est quand même tout le temps inéluctablement cadencé et qu'on peut pas se tromper, même à retenir le texte, c'est presque comme si on apprenait des vers. C'est-à-dire, si c'est pas le bon mot, il tient pas, il fait tache, il est de guingois, et donc on retombe forcément sur l'écriture, quoi, sur le texte original.
Et justement, puisqu'on parle de cadence, de rythme, de musique, vous semblez, Denis Lavant, aimer mélanger, faire infuser musique et poésie.
Oui.
C'est juste.
Bah, c'est-à-dire, moi, j'aime la musique, ça me soulage des mots.
Ça vous apaise?
Du verbe. Oui. C'est pas que ça m'apaise, mais c'est pour moi, c'est plus un langage abstrait. Et puis, c'est pas professionnel. Parce que je suis pas musicien. Alors, mais j'aime beaucoup produire des sons avec des instruments, surtout les instruments à vent. Donc, j'en ai plein. J'ai des flûtes, des... J'en ai pas sur moi? Si, non, si, non, dans ma valise. Oh, vous avez un ocarina. J'ai des escargots, j'ai des flûtes, donc ça me... Je connais pas bien. Hein.
C'est très bien pour un débutant.
C'est un ocarina un peu poreux quand même. Je vais jouer de l'escargot, mais là, ça va beaucoup mieux. Quoi. C'est quand même... Beaucoup de...
Alors, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? C'est quoi?
C'est un escargot.
Tout simplement.
Et... Tout simplement, qui n'est pas apprêté. C'est-à-dire, on en joue comme, comme des flûtes, comme du ney.
D'accord.
J'ai trouvé ça, je dis, c'est une bonne issue, quoi. C'est un bon dérivatif. Plutôt que de faire du. De fumer avec des vaporetto, là. En fait, il suffit de souffler dans un truc, ça vous.
C'est peut-être la meilleure idée du jour.
Oui, moi, c'est une très bonne idée. Et donc, j'adore jouer de la musique. Mais très mal, quoi. Vraiment en dilettante. Ça, je l'assume complètement. Mais là, tout, quand je fais des spectacles de poésie. Souvent, je mets un peu de musique, parce que ça crée une autre dimension. Ah si, j'ai un autre truc que j'ai là. Je peux vous jouer aussi.
Et c'est quoi cet objet?
Ça, c'est un sifflet à nez.
D'accord.
C'est un sifflet dans lequel on souffle avec le nez. Et la cavité buccale fait la caisse de résonance. Et c'est formidable parce qu'on peut... c'est un apo à singe à l'origine d'Amazonie. Mais bon, c'est très très utile. C'est indispensable.
Et vous l'avez toujours sur vous?
Toujours. Quand je manque de conversation, je...
Vous les sortez. Ah. Denis Lavant, il y a un texte de l'écrivain Blaise Cendrars qui vous aimait beaucoup. Vous vous marrez là. Hein.
Pas du tout.
J'ai l'impression qu'il dit « Je voulais m'engager dans la vie poétique. »
Oui.
Et c'est pour cela que je devais d'abord traverser la poésie de la vie.
De...
Alors, comment fait-on pour habiter les mondes poétiquement? Est-ce que vous les savez, vous?
Je sais pas. C'est une... comment dire? C'est une manière d'être, quoi. C'est, à mon avis, c'est pas réfléchi.
C'est par exemple avoir un escargot dans sa poche.
Ouais, pour en fait, c'est de comment dire, c'est une manière de d'être dans une appréhension sérieuse du monde et en même temps très ludique. C'est-à-dire le côté sérieux, il n'est pas forcément là où il y a les valeurs sociales qui sont mises. Pour moi, ça a jamais été ça. Ça a toujours été à l'envers des valeurs sociales. Et le comportement ludique, il permet de s'alléger de l'oppression du quotidien ou de ce qu'on peut pas, ce qui est incontournable dans le monde. Par exemple, les transports en commun ou des choses comme ça, ou la rue, ou le désagrément. En fait, c'est de pas de résister, mais en fait de ne pas être obligé de supporter, mais d'utiliser ce qui vous tombe dessus ou le contexte oppressant dans lequel vous êtes, de l'utiliser de façon ludique, d'en jouer. Moi, j'ai commencé comme ça, très simplement, dans la rue, de pas dire aller d'un endroit à l'autre, j'adore marcher déjà, mais de danser plutôt, de me comporter de façon élégante dans le côtoiement des gens. Il y avait une chose que je pratiquais quand j'étais môme, quand j'allais à l'école de l'ENSAT, à la rue Blanche, c'est de remonter la rue de la Chaussée-d'Antin à fond, comme ça, en passant au milieu des gens et en slalomant très très vite, en faisant une sorte de danse improvisée, mais en touchant personne. Mais en allant très vite comme ça, en me faufilant comme ça, et ça me faisait plaisir.
C'était un jeu.
C'est quand même de se faire plaisir avec les embarras du quotidien. Et quand même de prendre l'existence dans son côté sérieux, c'est-à-dire le fait d'être en vie, d'être dans le présent, c'est tout le temps absolument sérieux d'être debout comme ça sur la terre, d'échanger de l'humanité même par les regards avec les gens, c'est une affaire absolument sérieuse. Et moi j'ai plutôt l'impression que les gens qui sont soi-disant en ce moment, depuis longtemps déjà, dans une attitude honorables, sérieuses, en fait, ils passent leur temps à jouer. D'ailleurs, je les vois dans le TGV, par exemple, avec leur consonne d'ordinateur, à faire semblant de travailler très sérieusement, mais ils sont en train de jouer. Même les gens au volant de leur voiture, c'est des vrais gamins qui ont investi comme ça dans leur gaminerie une posture sociale qui fait responsable et sérieuse, mais c'est pas sérieux du tout. Donc voilà, habiter poétiquement le monde, c'est d'être tout le temps aussi dans cette conscience-là. Que le sérieux n'est pas là où il a l'air d'être.
Denis Lavant, vous avez entretenu beaucoup de rapports avec la poésie russe. Vous avez étudié cette langue, vous êtes parti dans ces pays et vous avez même publié un récit de ces voyages, passant par la Russie, publié aux éditions Séguier. D'où vient cette fascination pour le monde slave, Denis Lavant?
Eh bien, en fait, ça remonte à une histoire de famille. Parce que j'ai eu mon arrière-grand-mère, qui était en Russie, à Saint-Pétersbourg, avant la Révolution, dans un milieu aristocratique, parce que c'est ma grande-tante qui en parlait, et qui en parlait de telle sorte, qui parlait avec une familiarité tellement déconcertante des Romanov, du prince Youssoupov, de Rasputin, de ces figures-là qui ont hanté la Saint-Pétersbourg avant la Révolution. Et moi, enfant, entre 5 et 7 ans, j'emmagasinais ces renseignements et je me faisais une vision d'une Russie comme ça, de rêve en fait, très onirique, et en même temps en étant persuadé qu'on était russe. Qu'on avait du sang russe, en tout cas, qu'on avait des origines de là-bas. Et je trouvais ça beaucoup plus pittoresque que d'être de la banlieue parisienne. Donc voilà, je me suis rêvé. Mais c'était quand même, c'était pas autant absurde que ça, parce que même mes frères et sœurs, ils étaient pas tellement sûrs qu'on soit pas russe. Mais moi, je l'ai adopté complètement, cette russitude. Et puis l'esprit slave, il y a quelque chose que je trouvais bien assez plaisant pour moi, de pouvoir exprimer des grands sentiments, de rire, de pleurer, ce qu'on appelle presque le cliché de l'âme slave avec les violons.
Et même votre visage, votre
Il n'y a jamais personne qui m'a démenti, sauf ma mère, à 40 ans passés, qui m'a dit, mais on n'a pas une goutte de sang russe. Alors que, donc, j'ai, fort de ces renseignements, en fait, avant, quand je suis entré au collège, à 10, 11 ans, il y avait la possibilité d'apprendre le russe. Moi, j'avais entendu dire, comme ça, avec l'année des informations, de dire que c'était une langue très chantante, très belle. J'ai dit, je vais apprendre le russe. En plus, je pensais pas, c'était pas pour me, pour, l'anglais, ça m'a toujours jamais tenté, mais c'était trop une langue utilitaire. Là, ça sert à rien d'apprendre le russe, donc je vais apprendre le russe. Puis c'est chantant, c'est très joli. Et du coup, forcément, j'ai plongé encore plus là-dedans. J'avais un copain qui était vraiment, lui, d'origine russe, avec qui on a sympathisé, qui m'a fait écouter Vysotsky. Vladimir Vysotsky, un grand comédien du temps de l'Union soviétique, qui est poète et chanteur aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, qui chante avec une voix absolument rauque et cassée. « Nabradskich magilach, niestaviat Kristof », etc. Voyez, qui est merveilleux, quoi, qui est très émouvant, quoi. Et ça m'a transporté, ça continue, sa voix continue à m'accompagner, d'ailleurs. C'est des voix qui véhicule de l'énergie, de l'enthousiasme. Et après, j'ai forcément, en étudiant le russe pendant 7 ans, j'ai plongé aussi dans la littérature russe, chez Tchekhov, Dostoïevski, les poètes, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Mandelstam, Yesenin, tous ces poètes de cette époque-là particulièrement. Il y a Pushkin aussi, qui est, il vaut mieux lire en russe qu'en français, parce que sa poésie, elle est incomparable en russe. La traduction l'alourdit énormément, quoi. C'est un génie de la poésie russe, quand même, Pushkin. Et les poètes d'avant, ou de l'époque de la Révolution, qui ont tous assez mal fini, c'est très fort, c'est très puissant comme poésie. Et puis, il y a encore ce phénomène qui m'a ravi dans Monsieur Merde, c'est d'avoir une langue qu'on est pratiquement le seul à parler. Quoi, à l'époque, moi, j'étais en banlieue parisienne, quoi, même dans les cours de théâtre, au départ, je pouvais réciter du russe, et au palo, comme, et non, et slova, la maya, ischio, jivouyou, grouds, etc. Et il y avait personne qui me comprenait, et ça me dédouanait de dire quelque chose de, qui était signifiant en français, donc d'être, de pouvoir m'exprimer, faire du bruit, de façon cohérente, mais qu'il n'y avait que moi qui comprenais. Et donc, tout le monde me... Il n'y a jamais personne qui m'a dit « tu déconnes ». Tout le monde disait « ah oui, comme vous venez de me dire, ah oui, t'as des pommettes, t'as un type slave ». Bah oui, bien sûr, je suis d'origine russe ». Et en fait, pas du tout.
Et vous racontez dans votre carnet de voyage, vous êtes dans un train, il y a un vrai russe qui vous pose une question, quel est-il, quelque chose comme ça, et vous le répondez. Et vous
oui, êtes, dans l'avion.
Et vous êtes flatté, enfin vous êtes content d'être pris par un vrai russe.
Ah oui, c'est la première fois quand j'ai débarqué en Russie, parce qu'en Russie j'y étais avec le lycée. C'est en fin des années 70, classe de première, on a fait un voyage où on n'a pas du tout parlé russe. On a été dans une classe russe, tous ils parlaient beaucoup mieux français qu'on ne parlait russe. Ils étaient très, on a beaucoup rigolé, quoi. Puis j'y suis retourné très tardivement après pour ce voyage qui avait été organisé par Natalia Vavilova, la fille d'une comédienne russe qui travaillait avec Znorko, Irina Vavilova, et qui était nommée à l'Alliance française de Samara. Et qui avait compris que j'aimais beaucoup le russe, que j'aimais beaucoup la poésie,
vous étiez
et que j'avais envie de voyager en Russie. Et donc, c'est là que j'ai tenu ce journal, et je me suis mis à écrire dès que je me suis posé en Russie. Effectivement, dans l'avion, il y a un gars, comme ça, à brûle-pourpoint, qui me dit « 4 heures de chasse, pas genre ça ». Et là, c'était ma première retrouvaille avec le russe. J'étais obligé de réfléchir, j'ai fait une réponse maladroite, mais effectivement, je me dis, après, il me parle russe. Il doit croire que je suis, lui aussi, il doit croire que je suis russe. C'était un peu candide et naïf, mais enfin, ça m'a fait plaisir. Après, effectivement, je me suis rendu compte, par la force des choses, que si je pouvais passer en France, facilement pour quelqu'un d'origine russe, surtout dans le milieu des apprentis comédiens. Par contre, en Russie, c'était clair que j'étais, pour les Russes, j'étais pas russe du tout, quoi. Mais je me suis rendu compte comme ce que j'ai tendance à afficher en ce moment comme entité, quoi, que je représente ou que j'illustre, je ne sais pas bien, mais pas simplement par ma manière de m'habiller, aussi, je sais pas, par ma manière d'être, je stigmatise quand même le type un peu rom, tzigane, et ça dans n'importe quel, ou en tout cas apatride, dans n'importe quel pays, et c'est pas toujours bien accueilli, quoi. Surtout, vu comme les roms sont un peu diabolisés en France, depuis Sarkozy, hein, on les accuse d'être des voleurs d'enfants, où il y a une sorte de truc, mais nauséabonde qui est déployé autour de ces gens qui sont quand même encore dans un rapport de vie qui est à peu près authentique par rapport à non-accumulation des biens de ce monde, et un rapport au temps qui est le temps présent, qui est pas le temps prémédité du commerce. Moi, je trouve ça un peu dommage. On devrait, au contraire, en prendre soin de nos tziganes et de nos roms dans tous les pays, quoi.
On parlait de votre recueil de voyage, et je me demande quel rapport vous entretenez avec l'écriture. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que l'envie d'écrire vous habite?
Oui, en fait, ça m'a pris pas mal d'écrire par comme ça, comme exultoire, par pulsion, pour me débarrasser de ce que j'avais d'un trop plein, comme ça. Aussi par plaisir, par goût de pouvoir faire de la fantaisie, d'exprimer de la fantaisie, du jeu de mots aussi. Parce que un de mes maîtres, c'est quand même Bobby Lapointe. Hein, donc j'aime beaucoup ce rapport au jeu de mots, à l'assonance, qui est quand même la base de la poésie. Et puis d'exprimer des choses intimes, ce qu'on a sur le cœur. Donc j'ai rempli des cahiers comme ça, de trucs, mais qui m'ennuient énormément. Une fois que je les ai déposés, des fois dans des états seconds.
Vous vous relisez jamais?
Si, ça m'arrive de me relire des fois longtemps après. Et la seule chose que j'ai pris un peu en considération, c'est ce journal, mais surtout grâce à un ami, à Michel Archimbault, à qui je l'ai fait lire, qui m'a dit « Ah, c'est bien, on devrait l'éditer ». Alors que moi, je disais « C'est un peu lourd, quoi ». Ça m'ennuie, c'est tellement une expression personnelle, l'écriture, que après, j'ai tendance à désavouer, mais de façon ambivalente, c'est-à-dire à y tenir quand même, à garder des cahiers sur lesquels j'ai des choses écrites, à des fois les relire longtemps après, mais immédiatement après, ça me dégoûte un petit peu. Puis bon, ouais, bon, et j'y tiens pas, quoi. J'ai plus tendance à mettre de côté, mais j'aime beaucoup l'écriture des autres. En fait, j'ai plus une propension à me mettre au service de l'écriture des poètes. Mais, si vous voulez, le fait d'écrire moi-même ou d'avoir écrit, parce que là, j'ai plus tellement écrit, plus beaucoup écrit. J'ai résisté à cette pulsion en même temps qu'à la boisson, sans doute. Je ne sais pas, peut-être ça va avec. De boire et d'écrire est quelque chose qui est lié, quoi, dans la liquidité, quoi, de ce qui circule. Mais le fait d'écrire, ça m'a permis d'appréhender mieux l'écriture des poètes, l'écriture des autres, de dire que c'est pas quelque chose qui est monumental et fixé comme ça sur le papier, c'est de comprendre la dynamique d'une écriture, la dynamique de quelque chose qui est en train de se faire, et comme ça qui est inscrit, qui est une étape de pensée, qui est une pensée en mouvement. Et ça, c'est très important, particulièrement avec la poésie. J'ai perçu énormément dans les écrits en prose, les Illuminations ou Une saison en enfer de Rimbaud, qui a une pensée qui est en plein débat personnel et qui avance et qui est pas terminée, qui est une bribe, qui a un moment, une séquence d'un moment de pensée qui se prolonge. Et ça, c'est quoi, la dynamique, c'est quand même l'essentiel. La dynamique et le déséquilibre, c'est ce qui crée le mouvement et c'est ce qui est vivant aussi.
Est-ce que vous avez là, tout de suite, comme ça, Denis Lavant, un petit poème qui vous
trotte par la tête ? Un petit poème, voilà.
Pour qu'on puisse finir cette émission joliment.
En français, en merdogon ?
C'est à vous de choisir.
Non.
En russe ?
Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu un instant à la fois très vague et très aiguë. Oh, ce soleil, parmi la brume qui se lève. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes. Un lent réveil, après bien des métempsycoses, les choses seront plus les mêmes qu'autrefois. Dans cette rue, au cœur de la ville magique, où les orgues moudront des gigues dans les soirs, où les cafés auront des chats sur les dressoirs et que traverseront des bandes de musique. Ce sera si fatal qu'on en croira mourir, des larmes ruisselant douces le long des joues, des rires sanglotés dans les fracas des roues, des invocations à la mort de venir, des mots anciens, comme un bouquet de fleurs fanées, les bruits aigres des bals publics arriveront, et des veuves, avec du cuivre après leur front, paysannes, fendront la foule des traînées qui flânent là, causant avec d'affreux moutards et des vieux sans sourcils que la dartre enfarine, cependant qu'à deux pas, dans des senteurs d'urine, une fête publique enverra des pétards. Ce sera comme quand on rêve, et qu'on s'éveille, et que l'on se rendort, et que l'on rêve encore, de la même féerie et du même décor, l'été, dans l'herbe, au bruit moiré d'un vol d'abeilles.
Merci infiniment. C'est de qui, Denis Lavant ?
Ah, c'est Verlaine.
Merci.
Kaléidoscope.
Kaléidoscope. Merci infiniment, Denis Lavant.
Je vous en prie.
De cette rencontre de Dany Le Gras avec Denis Lavant. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Laurent Macchetti, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.